Pop-opien, pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. Il s'en passe des choses sous nos yeux, sans compter celles qui échappent à notre champ de vision, mais dont nous sommes pourtant conscients, ou pas, ou peu. Pour autant, c'est un peu comme si nous étions aveugles, enfin, non-voyants, comme on dit pudiquement, pour ne pas blesser l'oreille des sourds, enfin, des malentendants. Et c'est pour nous aider à y voir un peu plus clair et à mieux régler notre dioptrie que deux jeunes femmes ont décidé d'écrire un manuel, histoire de nous ouvrir les yeux, de nous dessiller, comme on dit. Il semblerait en effet, à les en croire, que ce soit le regard masculin qui dirige sans partage un monde auquel appartiennent les femmes à quantité égale, source de tout un tas de tracas, pour rester euphémique, jusque bien sûr dans la pop culture, il n'y a pas de raison. C'est notre sujet du jour et j'observerai qu'aujourd'hui dans ce studio, la tendance est radicalement inversée puisque je suis le seul garçon soumis à trois regards féminins aussi perçants qu'exigeants. C'est chaud, bonjour la canicule. Pop pop pop, en ce 15 juin de cette année 2021, où nous recevons Iris Bray et Myrion Mal pour parler de leur livre Manifeste sous nos yeux, c'est parti.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine de Paule.
Et sous mes yeux à moi, une femme de radio à l'oreille aiguisée. Bonjour, Charlie.
Bonjour, Roux. Antoine.
Et bonjour, Iris Bray.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue en pop-pop-pop. Ce cri, oui, je l'ai. Ce cri, c'est celui de Laura Palmer dans la dernière saison de la série Twin Peaks, et c'est ce qui vous évoque la pop culture. Iris, expliquez-moi pourquoi, s'il vous plaît.
C'est un peu intense de commencer par ce cri, j'avoue, je ne pensais pas qu'on ouvrirait avec ça. Pourquoi ça m'évoque la pop culture? Bah déjà parce que c'est un cri que j'ai attendu 25 ans. Non, je rigole, j'ai pas vu Twin Peaks exactement dans l'ordre, mais en tout cas, c'est dans cette troisième saison de Twin Peaks qu'on entend Laura Palmer qui refait ce cri, et ça m'intéresse de voir comment, quand on est sériephile, on peut vivre des émotions très intenses sur la durée, mais c'est aussi, il faut le dire, le cri de l'inceste. En fait, ouais. C'est quoi Laura Palmer? C'est une jeune fille qui est retrouvée morte, c'est un corps inerte qui n'a plus de voix. Et en fait, tout Twin Peaks, ça va être aller vers cette voix qui peut raconter l'abus et l'inceste père-fille qui, en fait, rythme tout Twin Peaks sans jamais vraiment le dire.
Ben, nous sommes directement dans le sujet. Hein.
Oui.
Nous y voici. Et avec vous, Iris, nous allons donc parler de ce livre sous nos yeux, sous-titré « Petit manifeste pour une révolution du regard ». Un livre illustré par Myrion Mal, qui sera avec nous dans quelques instants au duplex de Montréal. Mais avant ça, ma chère Iris, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué parmi les pop événements du moment. Est-ce cette manifestation de nudistes devant la mairie d'Edderven, cette petite commune du Morbihan? Les nudistes protestaient contre le déplacement d'un panneau pour indiquer la délimitation de leur zone avec celle des textiles. Seul problème, la manifestation n'a pas eu l'effet et le buzz escompté car ils ont défilé habillés.
Où est-ce ce teaser signé Mylène Farmer? Un teaser d'une grande gaieté intitulé Nevermore 2023. Mais alors, de quoi s'agit-il? Un album, une tournée, le lancement d'un salon de coiffure spécialisé pour les roues? Bon, je cite un article du Figaro. L'excitation des experts en pharmérologie est à son comble.
Ou bien est-ce cette fierté nationale et cette première mondiale, car Julia Pietri, artiste, auteur, militant féministe et la créatrice du compte Instagram Gang du Clito, vient d'inventer les premiers bonbons Clito. Car oui, ça n'existait pas, des bonbons qui vont devoir se frayer un chemin à côté de tous les sgegs en gélatine déjà existants. Quelle info retenez-vous, ma chère Iris?
Évidemment, le bonbon en forme de clitoris et Gang du Clito, parce qu'il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, on a attendu l'année 2018 pour pouvoir dire clitoris dans une série télé américaine, donc je pense que c'est bien de pouvoir le dire à la radio, encore et toujours.
Et se gaver de bonbons en faisant évidemment attention au diabète.
Évidemment.
Ah, évidemment, précaution.
Pourquoi vous regardez?
La pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop 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 juste après. Peur des filles, c'est un morceau de l'impératrice dans cette émission où je me sens déjà un petit peu moins seul.
Elle sourire, un revolver dans le dos. Le grand méchant loup, elles sont partout. Tu sens monter la menace. Tu dis ça, t'es pas macho, mais c'est pas des gens comme il faut. Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco, si en plus elles sont costauds.
Impératrice dans Pop Pop Pop, c'était Peur des filles et je laisse le soin à une fille justement de nous dire avec son pop portrait qui sont les deux autres filles qui nous accompagnent aujourd'hui. Alors oui, un pop portrait, ben c'est un portrait bien sûr, mais il est signé Charline Rao.
Aujourd'hui, deux invités qui nous permettent de regarder la fiction avec une acuité qui devrait être la norme et qui pourtant se heurte toujours à un village d'irréductible de la production slash réalisation slash écriture slash voire public, majoritairement mâle. Alors précisons qu'en ce studio, la guerre des sexes n'aura pas lieu, mais que nos invités peuvent toutefois nous aider à fourbir les armes pour l'éventuelle bataille, celle de la perception. D'un côté, une autrice, doctorante en théorie du cinéma à l'université de NYU sur le thème « La représentation des mères déchaînées dans le cinéma français », spécialisée dans les études de genre, ayant publié le programmatique Sex and the Series, déjà une petite révolution puisqu'elle y décortiquait les sexualités féminines dans les séries, donnant par la suite naissance à une série documentaire du même nom. Et de l'autre, une autrice dessinatrice passée par l'École supérieure des arts Saint-Luc à Bruxelles, titulaire d'un master de sociologie et anthropologie avec une spécialité en genre, à l'origine du blog au titre lui aussi programmatique Commando Culotte, disséquant avec sérieux mais humour les tropes du patriarcat, autrice aussi entre autres de la Ligue des Superféministes, Les règles, quelle aventure, ou encore le très beau C'est comme ça que je disparais. Elle joue aujourd'hui les éclaireuses pour les générations d'après et on va pouvoir en parler en toute sororité.
En toute sororité, on n'est pas au couvent quand même. Enfin.
On ne parle pas des mêmes sœurs.
Ah, pardon. Mm-hmm. La représentation des mères déchaînées dans le cinéma français comme thèse de doctorat. Alors ça m'intrigue, on s'arrête juste une seconde là-dessus. Elles sont plus déchaînées que dans le cinéma espagnol par exemple?
Je ne sais pas, j'ai moins de connaissances dans le cinéma espagnol, mais oui, j'ai fait mon doctorat sur ce sujet-là il y a déjà quelques années, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogée de voir que les mamans étaient représentées souvent comme monstrueuses quand elles ne rentraient pas dans la norme dans notre cher cinéma français.
Avec nous en duplex depuis Montréal, l'illustratrice de ce livre si richement illustré, bonjour Myrion Malle.
Bonjour.
Nous sommes en direct, le miracle de la technologie entre Paris, Montréal. Non mais France, cette émission ne se refuse rien. Petite précision Myrion, ce n'est pas le prénom Marion prononcé par Mr. Burns des Simpsons, car vous vous appelez bien Myrion. Nous sommes d'accord Myrion?
Eh bien, c'est une astuce en fait que j'ai trouvée quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée. En fait, je m'appelle Marion, mais j'étais en prépa lettres à ce moment-là. J'avais un blog BD et je voulais pas que mes profs me trouvent. Donc, je m'appelle Marion Mille et j'ai inversé les deux premières lettres. Voilà, et maintenant je le garde.
Ok, Myrion Malle. Donc, Myrion, avec Iris Bray, vous publiez donc Sous nos yeux, ce petit manifeste pour une révolution du regard. Charline, de quoi ça parle? Parce que j'ai pas mes lunettes.
Nous sommes constamment abreuvés d'images et donc influencés par ces films, séries, pubs, jeux vidéo, BD, porno. Le problème, c'est que ces images proposent souvent une représentation des femmes des plus déprimantes et injustes. Ce manifeste est là pour apprendre à décrypter les images qui n'ont rien d'anodin. Sous nos yeux, c'est une prolongation à hauteur d'ado, je dirais, de vos travaux respectifs traversés par le féminisme. Comment est née votre collaboration, Iris, avec Myrion ?
Bah, grâce à la personne qui est à la maison, la ville brûle, la maison d'édition, la ville brûle, Marianne, qui nous a mis en contact. Myrion pourra en dire plus, mais elle avait déjà travaillé avec eux, et donc c'était une évidence. Et moi, je suivais le travail de Myrion, donc quand on m'a proposé un ouvrage qui serait illustré par elle, j'étais très heureuse.
Myrion, vous confirmez ses propos?
Oui, vraie information. non, mais c'est ça exactement. Moi, j'avais déjà illustré d'autres livres dans la collection. Et puis, forcément, moi, quand elle m'a proposé ça, Marianne, donc l'éditrice, j'étais très emballée. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc, j'étais très contente. Et puis, j'aimais beaucoup Iris aussi. Donc, on ne s'est jamais vu.
Et on ne s'est même jamais entendu.
C'est dingue.
C'est ça. On s'est juste parlé par message.
Par Twitter.
Exact. Bon.
Et alors?
Eh ben, je pense que, ouais, moi, je suis assez émue de l'entendre. J'espère qu'on va se rencontrer un jour bientôt.
Mon Dieu, moi aussi.
Bon, le but est de nous donner, avec ce livre, une nouvelle vision de la pop culture, un nouveau regard, donc. Et c'est cette même pop culture qui vous a ouvert les yeux pour garder la métaphore oculaire. Grâce aux séries Iris, notamment. C'est en binge-watchant des séries comme Girls, Orange is the New Black, Transparent, The OA, Fleabag, que vous vous êtes rendu compte qu'enfin, on pouvait avoir des héroïnes qui n'étaient pas seulement là pour mettre en avant des personnages masculins. C'est donc une histoire de lunettes et de pop culture, d'où le titre « Sous nos yeux ».
Oui, c'était vraiment la prolongation du travail que j'ai fait pour mon ouvrage qui s'appelle « Le regard féminin ». Et c'était de... J'avais envie de m'adresser en fait à moi à cet âge-là et d'expliquer certaines choses de manière ludique et pédagogique et que ce soit aussi illustré pour que comprendre que les images qui nous entourent nous forment et forment un imaginaire et un imaginaire sexuel et notre désir. Et il me semblait important de... Voilà, je me dis que si je peux faire gagner quelques années à quelques adolescentes et quelques adolescents, ce serait pas mal.
Sur la couverture du livre, Myrion Mal, on peut voir une femme, caméra au poing, et derrière elle l'affiche d'un film intitulé « Film sur un mec où les femmes sont des potiches » avec un effet bancostar entouré de deux femmes effrayées pendues à son cou pendant que l'arrière-plan brûle. C'est un film produit par qui? Ça me dit quelque chose?
je pense par un très gros studio hollywoodien dirigé par 100% d'hommes.
Ouais.
Myrion, ce changement de regard, c'est quelque chose dont vous êtes témoin dans le monde du dessin, de la bande dessinée aussi?
Oui et non, j'imagine que... En fait, il paraît que dans ma génération, on est beaucoup plus d'autrices, parce qu'avant, il y avait l'idée que « Ah, mais les autrices, c'est un très petit pourcentage dans la bande dessinée. » Moi, j'ai toujours été entourée de femmes qui faisaient de la bande dessinée. Après, bon, les gros lourds en festival, malheureusement, il y en a toujours. Ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu et c'est toujours les mêmes. Donc, oui et non, mais il y a beaucoup, beaucoup... La bande dessinée, c'est vraiment un domaine où il y a une très grande richesse d'œuvres, une très grande diversité, et il y a beaucoup d'autrices merveilleuses qui font des œuvres tout aussi merveilleuses.
Et pour en revenir à Sous nos yeux, très rapidement, dans ce manifeste est abordée la question du male gaze, une expression anglophone qu'on entend beaucoup. Iris, professeur, qu'est-ce que le male gaze?
Professeur Iris,
ouais. Le male gaze a été... Je pense que nos auditeuristes sont vraiment enchantés que je sois là parce que je vais balancer du lourd. Donc je veux parler d'une théoricienne qui s'appelle Laura Mulvey, qui a écrit ce texte en 1975, qui explique en fait qu'on apprend à regarder des femmes comme des objets et qu'on apprend à désirer à travers cette domination et qu'il y a une triangulation qui s'opère entre le spectateur, la caméra et le héros. Et la caméra se fait le relais en fait du regard du héros qui ne prend que du plaisir en regardant les femmes de manière morcelée et en les érotisant à travers leur objectification.
Alors ça, c'est pour le male gaze. Et le female gaze, what is the female gaze? Je pose la question à Myrion, qui nous parle depuis l'autre côté de l'Atlantique.
Eh ben, c'est justement détourner ce regard-là et proposer une nouvelle façon de regarder, je pense, non seulement les femmes et les corps féminins qui sont justement morcelés par le regard masculin, mais aussi, je pense... tout le reste, et puis l'expérience féminine en général, l'expérience sociale, du collectif. Donc proposer des nouvelles histoires et de nouvelles façons de les raconter.
Le livre étant destiné à une jeune génération, ou en tout cas une génération plus jeune que la nôtre, je l'ai mis entre les mains...
C'est pour vous ?
Comment ?
Non,
je parlais vraiment pour moi, Antoine. Je l'ai mis entre les mains d'une jeune demoiselle de 11 ans, et ça lui a inspiré quelques interrogations, dont celle-ci.
Est-ce que, en tant que fille, c'est grave si j'aime un film dans lequel on constate le male gaze ?
Vraie interrogation.
Non, je pense que c'est vraiment pas grave. Je pense que on a le droit de tout aimer. La question du regard masculin et du regard féminin, c'est pas de censurer certaines œuvres. C'est juste de comprendre qu'il y en a plein d'autres qui existent et de comprendre que le regard masculin, en fait, est un regard majoritaire et qu'il est omniprésent. C'est pas son existence, en fait, qu'il faut remettre en question. Donc, aucune culpabilité à avoir si on aime un film qui porte ce regard masculin. Si déjà on en a conscience, c'est un pas énorme.
Un bon Rambo. Myrion, vous partagez le même avis ?
Oui, ben c'est ça. Je pense que c'est, comment dire, avoir connaissance de toutes ces, de tous ces concepts-là, c'est un peu comme avoir une boîte à outils à notre disposition et qui nous permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, c'est à nous de voir si on continue d'aimer ou pas. Et encore une fois, je pense que la culpabilité, ça sert pas à grand chose. Et puis, qu'on peut aimer des... Moi, j'adore Die Hard. Puis, je trouve que c'est un film qui est super bien écrit, mais c'est l'inverse de toutes mes croyances morales et éthiques. Et, mais bon, c'est, au niveau du scénario, c'est super, quoi. Mais je peux faire la part des choses.
J'ai une question pour vous deux. Les femmes dans la pop culture sont souvent filmées comme des objets, dites-vous, avec plusieurs techniques, en se focalisant, par exemple, sur des parties anatomiques qui se dissocient donc de l'ensemble, en filmant de bas en haut, version de James Bond Girl qui sort de l'eau, ou encore en se servant du ralenti. L'exemple le plus parlant n'est-il pas celui-ci ? Pamela Anderson qui mettait un temps fou à traverser la plage pour sauver quelqu'un de l'insolation. Ça vous rappelle des souvenirs ?
Oui, j'ai d'ailleurs failli mettre un maillot de bain rouge pour venir vous voir aujourd'hui. Mais oui, effectivement, bah, c'est exactement ça. On est en plein male gaze avec ce ralenti sur cette poitrine qui bouge de haut en bas.
Mais là, typiquement, dans une série comme celle-ci, Alerte à Malibu, on se pose aussi la question de la clientèle présupposée, qui est extrêmement genrée, de fait. On présuppose déjà que c'est une série qui va être regardée pour des garçons, donc on leur donne... Ce qui met en même temps le spectateur dans une position très étrange.
Ben, je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'on se pose jamais la question de ce que les femmes aimeraient voir aussi, et de qu'est-ce que ça pourrait être que l'érotisme au masculin. Donc en fait, je pense qu'on pense pas vraiment à la clientèle. On se dit direct que ça va être des hommes qui vont regarder ça. Et je pense qu'en fait, ça n'excite pas tous les hommes, et qu'il y a en fait plein de régimes de regard, de régimes d'image, et aussi de régimes érotiques, en fait, qu'il faudrait multiplier et arrêter de se... Moi, je trouve que c'est de la fainéantise, en fait, ce genre de code visuel qu'on n'arrête pas de reprendre dans toutes les scènes de sexe. Je pense que ça n'excite plus personne et que ça n'intéresse plus personne, et qu'il serait vraiment temps de révolutionner la manière dont on filme les corps féminins, le désir et l'érotisme.
Myrion, vous qui vivez en Amérique du Nord, au Canada, est-ce que ce genre de générique aurait du mal à exister aujourd'hui, en 2021, ou pas ?
Alors moi, mon secret, c'est que je suis française. J'habite ici depuis 4 ans, 5 ans.
Vous avez pris l'accent.
Ah oui, bon, ah bah, tant mieux.
Petit accent.
Je l'aime beaucoup.
Non.
Mais du coup, j'ai pas la télé ici, j'aurais du mal à dire. Mais c'est vrai que l'image qu'on a ici en tant que Français, c'est qu'on est très en retard, très réac, très sexiste. Donc c'est pas forcément que c'est parfait ici, au contraire. Mais c'est vrai qu'on a une image un peu craignos sur ces questions-là.
Nous parlons aujourd'hui de Sous nos yeux, le livre que vous avez écrit, Iris Bray et Myrion Mal. Nous allons continuer à en parler juste après mon coup de cœur musical du moment. C'est un petit coup de cœur que j'ai pour une chanteuse qui s'appelle Améthyste Kia et son morceau Black Myself.
pop-up. Antoine Decaune.
Et Charline Roux.
Et nous parlons aujourd'hui de Sous nos yeux, un livre de Iris Bray et Mirayon Mal qui est édité aux éditions La Ville Brûle. Alors, autre exemple de ce male gaze dont nous parlions juste avant avec vous, Iris, ce film de Tarantino, il était une fois à Hollywood. Si on vous répond, si Tarantino vous répond par exemple que on est dans un film de genre avec du second degré, un jeu avec les stéréotypes, vous lui dites quoi ?
Non, je pense absolument pas. Je pense que le plan notamment dont je parle, où c'est une jeune femme
qui se penche
en fait pour parler à travers une vitre et la caméra est juste derrière ses fesses, c'est absolument gratuit. Mm-hmm. Mais de la même manière que de voir Brad Pitt nu sur un toit, c'est complètement gratuit. Mm-hmm. Mais par contre, c'est pas gratuit le fait qu'on n'ait pas accès à ce qui se passe pour Sharon Tate, qu'on réfléchisse pas en fait non plus au silence. Hein. C'est-à-dire, moi, quand vous m'avez demandé le son de pour la pop culture, qu'est-ce que ça m'évoquait, j'ai aussi pensé en fait au silence, hein, sur Cielo Drive, devant leur maison, le lendemain de la mort. Qu'est-ce que ça raconte, ce silence-là ? Et moi, ça me raconte que les victimes ne peuvent plus parler et qu'on n'a jamais accès en fait à leurs histoires, à leur point de vue. Et donc, quand un réalisateur va s'emparer de quelque chose, j'aimerais avoir accès en fait à ce que la femme pense au personnage féminin. Et je trouve que ça a des conséquences politiques.
On a beaucoup parlé de séries, de films majoritairement écrites par des hommes, filmées par des hommes. Alors évidemment, l'émergence de scénaristes et de réalisatrices a changé la donne. Pourtant, une constatation qui a entraîné une autre interrogation chez mon experte enfant maison.
Est-ce qu'aujourd'hui, il arrive qu'une réalisatrice porte le même regard qu'un réalisateur, c'est-à-dire qu'on constate qu'elle filme avec le male gaze ?
Oui, absolument. Puisqu'en fait, on est toutes et tous le produit du male gaze, donc on apprend tous à regarder ensemble, on a tous la même filmographie, cinéphilie, pas tous exactement la même chose, mais en fait, c'est tellement majoritaire que beaucoup de femmes vont reproduire ces codes visuels, notamment, par exemple, si vous voyez un film qui s'appelle MILF d'Axel Lafont, ça n'est que du male gaze sur des corps de femmes. Après, c'est des corps de femmes plus âgées, alors peut-être que ça pourrait être perçu comme étant plus intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les cinéastes qui inventent et réinventent. Et ce dont je me suis rendu compte quand j'écrivais Le regard féminin, c'est que les femmes qui veulent aller au plus proche des expériences des corps féminins, que ce soit le corps biologique, social ou collectif, elles inventent la forme filmique. Je veux dire, Dorothy Arzner, elle invente la perche parce que sa comédienne bouge trop rapidement. C'est comme ça que la perche est inventée. C'est pour s'approcher au plus près du féminin. Donc voilà, moi je pense que c'est ça qui m'intéresse, c'est ceux et celles qui réinventent et pas juste ceux et celles qui reproduisent un peu par fainéantise.
La jeune Juliette, qu'on vient d'entendre, 11 ans, a donc trouvé votre livre Iris et Mirayon tout à fait à son goût. C'est exactement le genre de public que vous voulez toucher, parce que tout ça est au fond évidemment une affaire d'éducation, de culture. Mirayon.
J'aime vraiment beaucoup ça quand faire des choses pour la jeunesse. Moi, j'ai commencé ma carrière en faisant un livre plutôt pour adultes, vieux adolescents. Et j'ai fait la Ligue des Superféministes, du coup, qui était pour enfants. Donc, un livre de vulgarisation, une bande dessinée de vulgarisation féministe pour un public à partir de 8-10 ans. Et là, je rencontrais déjà un peu des ados et tout ça quand je faisais des interventions en collège, en lycée. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé avoir accès à tous les outils qu'il y a peut-être maintenant aujourd'hui, et à chaque fois je suis éblouie par l'intelligence en fait des enfants et des ados, et par leur curiosité, et puis le fait que dès qu'on leur explique quelque chose et que ça les satisfait, que c'est de façon logique, enfin qu'il y a pas de limite des limites à ce qu'ils peuvent comprendre, mais en tout cas beaucoup plus vaste que celle qu'on veut nous faire croire, j'imagine. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir à chaque fois en dédicace, quand je rencontre des petites ados qui m'expliquent qu'elles ont fait des clubs antisexisme dans leur collège. Moi, je sais pas, ça me donne les larmes aux yeux presque, parce que j'aurais aimé avoir ça dans mon collège. C'était pas vraiment ça.
Iris, ça provoque le même genre d'émotion chez vous ?
Ouais, je suis très émue par ce genre de questions, parce que ça veut dire déjà qu'il y a une interaction entre le texte, les images et son imaginaire, sa pensée, et on se voit bien que les adolescents et les adolescentes sont totalement capables de s'emparer de ces sujets, ils le font avec beaucoup de finesse. C'est difficile en plus, parce que comme il y a eu le Covid, moi j'ai pas du tout rencontré les adolescents et les adolescentes qui ont lu le livre, donc ça m'émeut d'autant plus d'avoir ce retour-là.
Alors, je reviens aux fondamentaux. Pour savoir si un film est sexiste ou non, il y a un test très simple qui s'appelle le test de Bechdel. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste ?
Oui, le test de Bechdel, donc c'est Alison Bechdel qui a fait une BD où on voit deux personnages féminins qui se posent la question de est-ce que dans un film, il y a deux personnages féminins qui se parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Mmh. On a rajouté une autre clause qui est qu'il faut que les deux personnages féminins aient un prénom et un nom. Donc voilà, c'est est-ce qu'il y a deux femmes nommées qui se parlent entre elles d'autre chose que d'un homme, et malheureusement, bah il y a très peu de films et de séries qui passent le test. Par exemple, la saison 1 de Lupin ne passe pas le test, alors que voilà, on dit que c'est une série très regardée par les adolescents et les adolescentes. Moi, ça m'interroge, voilà, que des séries, des films aujourd'hui ne passent toujours pas ce test-là.
Mais est-ce qu'il y a d'ailleurs des genres spécifiques de films, de séries dans lesquels le test échoue de manière quasi systématique?
Myrion, peut-être.
Ben, je sais pas trop. Je pense qu'on aurait une réponse facile. Ça pourrait être genre tous les blockbusters, tous les. C'est pas forcément. Moi, par exemple, un film que j'ai adoré l'année dernière, c'était Birds of Prey. Donc, le film sur Harley Quinn, qui est réalisé d'ailleurs par une réalisatrice qui s'appelle Cathy Yan. Et donc, qui explose complètement toutes les conventions du genre. Mais, donc, c'est un film de super vilain, super héros. Mais je pense qu'effectivement, dès qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis quelque part, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pouvoir, et malheureusement quand il y a beaucoup de pouvoir, ça veut dire que souvent ça va être des hommes blancs qui vont avoir ça, et donc souvent ça va, même si comme disait Iris tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est exempt du male gaze, mais je pense que voilà, il y a ces questions-là sont moins posées quand on n'est pas concerné. Et moi, j'ai fait mon mémoire de sociologie, je l'ai fait sur le milieu des scénaristes de séries télé et les dynamiques de pouvoir dans ce milieu-là. Et de ce que j'avais vu, c'était effectivement ça. Moins il y a des gens divers derrière, qui écrivent, qui sont derrière la caméra, etc., plus qu'on voit à l'écran, c'est formaté, et puis ça manque de diversité et puis de réflexion sur ces points-là.
J'en reviens à ce fameux test de Bechdel. Intouchable, Le Seigneur des Anneaux, la première trilogie Star Wars, la franchise Batman, de nombreux Marvel ou encore Les Misérables, ce film multiprimé l'an dernier, ne passe pas le test. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer la narration, je ne sais pas moi, de Star Wars et celle des Misérables de Ladjli?
Bah, en fait, c'est pas tellement comparer l'un et l'autre, c'est juste se rendre compte que c'est un système. Et donc ça ne parle pas de la qualité des films, ni de leur impact culturel. C'est juste de se dire que ce soit dans les énormes productions et même les plus petites, sont des questions en fait qu'on se pose pas et qu'il faudrait juste poser la question de tiens, est-ce que le film passe le test? Ça permet aux scénaristes d'interroger leurs propres stéréotypes de genre et aussi leurs propres automatismes. Et moi, je pense que de s'interroger, en fait, c'est un processus joyeux parce que ça va amener de plus de créativité, donc plus d'inventions et des narrations qu'on ne connaît pas encore.
C'est une question que vous posez, par exemple, Myrion, quand vous racontez une histoire, parce que c'est toujours un point de vue, c'est toujours anglais, la manière de raconter une histoire, on est d'accord?
Oui. Moi, je suis très partisane de l'idée que toutes les œuvres sont politiques parce que toutes les œuvres existent dans un certain contexte. Je ne crois pas à la neutralité du tout. Et donc, effectivement, moi, je me pose toujours la question de depuis quel point de vue j'écris et à qui je veux parler et ce que je veux faire. Et par exemple, ma dernière bande dessinée, qui était une bande dessinée de fiction, qui s'appelle C'est comme ça que je disparais, qui raconte l'histoire d'une dépression. Moi, par exemple, ce que je voulais, c'était surtout pas que ce soit difficile à lire pour notamment les survivantes d'agressions sexuelle, parce que c'est un sujet qui est abordé dedans, et c'était quelque chose qui me drivait, qui me menait dans l'écriture. Et après, au niveau de la représentation, c'est sûr que moi, forcément, parce que ça fait longtemps que je réfléchis à ça, que je lis des militantes, etc., c'est quelque chose qui est très au cœur de mon travail, et je vais pas faire quelque chose mais je pense aussi que j'ai toujours beaucoup à apprendre, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est anxiogène mais d'une bonne façon, c'est-à-dire j'ai toujours envie de faire mieux et de pas parler à travers mon chapeau, comme on dit, de pas parler à la place d'autres gens ou de dire des choses qui pourraient être donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un questionnement perpétuel qui est vraiment au cœur de l'écriture pour moi.
Pas parler à travers mon chapeau, vous êtes vraiment devenue canadienne.
Oui.
Et autre question primordiale, surtout quand on s'adresse à des jeunes gens, celle du consentement. Alors certes, il y a une vraie évolution dans les intrigues et personnages, mais évolution avec grosse réserve toujours, vous le précisez Iris.
Oui, je pense qu'on a l'impression, dans certains cercles, dans certains milieux, que tout ça est acquis. Mais en fait, non, la majorité des films et des séries ne montrent pas qu'est-ce que c'est que le consentement. Par contre, je trouve que c'est intéressant que certaines séries prennent ça en charge, que ce soit Sex Education ou Normal People, et qu'ils mettent en scène, en fait, des scènes où on pose la question du consentement, où deux êtres humains demandent à l'autre, est-ce que tu en as envie? Non. Comment est-ce qu'on peut le formuler? Comment est-ce que ça peut s'insérer aussi dans dans un moment érotique, parce que c'est toujours ce qu'on nous répond, c'est que ça va tuer l'amour de parler. Mmh. Mais de montrer en fait que non, le langage, ça peut participer à l'excitation. Mmh. Moi, je trouve que ça, c'est très important. Et d'avoir ça dans les séries, je trouve que c'est la meilleure réponse à ceux et celles qui sont réfractaires à la question du consentement. Mmh.
Sous nos yeux, c'est signé Iris Bray et Myrion Mal. Myrion Mal que je ne vois pas puisqu'elle est, elle est chez elle à Montréal, d'où elle nous a gentiment parlé. Merci Myrion d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci et bonne poutine à vous parce que je sais que c'est l'heure du déjeuner chez vous. Merci beaucoup Iris Bray et Myrion Mal. Je vous propose de reprendre cette conversation dans quelques instants, juste après les Pop News.
Bob et Sully sont de retour. Le duo magique Pixar de Monstres et Compagnie se voit assigner une nouvelle mission. Et comme ils sont doublés en VO par John Goodman et Billy Crystal, on ne résiste pas à l'anglais.
They're putting you two in charge.
Just kidding.
It's laughter we're after.
We're gonna need to find a couple of hundred more funny monsters.
Excuse me, Tyler Tuskman, official scarer.
What? Scarer?
You're no longer hiring scarers?
Scarers are out. Jokesters are in.
Is this a joke?
Report to MIFT!
Et oui, 6 mois après les événements de Monstres et Compagnie, le rire des enfants est devenu la ressource principale de Monstropolis et non plus la peur. Et nos deux monstres préférés doivent désormais former des monstres rigolos. Une mission à suivre dans Monstres et Compagnie au travail, une nouvelle série diffusée sur Disney+ à partir du 2 juillet.
Solidarité Sida ne désarme pas. Certes, l'édition classique de Solidaise n'aura pas lieu. Pour autant, pas question d'oublier ceux qui ont été sur le front tout au long de la pandémie, les soignants. Alors le 4 juillet, l'Hippodrome de Paris-Longchamp ouvrira ses portes à une 23e édition inattendue, gratuite et réservée aux femmes et aux hommes qui font vivre la santé. Une dizaine d'artistes seront à l'affiche. Pour participer à cette édition baptisée Merci aux soignants, si bien sûr vous en faites partie, il suffit de vous inscrire sur solidaise.com. Les heureux gagnants seront contactés après tirage au sort. Alors à tous les soignants, merci et bonne chance.
4 ans se sont écoulés depuis Mélodrama, le deuxième album du phénomène néo-zélandais Lord, accessoirement obsession numéro 1 de notre réalisateur Ghislain. Après une très longue tournée, une très longue pause, la revoilà en musique avec ce single Solar Power.
Tears that you've cried, it's over.
Un titre dévoilé et accompagné d'une mention, ça arrive en 2021. La patience est une vertu, nous sommes très vertueux, donc on attend sagement. Et en attendant, on vous met la vidéo de Solar Power sur le compte Twitter 3615 popopop.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
C'est la dame qui donne les ordres à Bob et Sully.
Et non, pas du tout. C'était la voix de Lord.
C'était pas du tout.
À Ghislain Fontanus, notre réalisateur. Et j'ajoute une pop news, car un nouveau chapitre s'ouvre pour Radio France avec le baptême demain de la Maison Ronde, qui devient la maison de la radio et de la musique. Et à cette occasion, nous ne vous proposons pas les traditionnels trajets, mais un concert-événement en direct et en plein air devant cette nouvelle maison, avec sur scène Jean-Louis Aubert, Youssoupha, Giorgio et bien d'autres. Ce sera demain à partir de 16h pour 6 heures de direct. Un événement à suivre sur toutes les antennes et les écrans de Radio France. Iris Bray, vous êtes avec nous dans la suite de Pop Pop Pop. Il va être question de Twin Peaks, de Sex and the City, de Carole King et de Pop Culture. Ce sera juste après un morceau de PJ Harvey, The Wheel.
Scream.
PJ Harvey, The Wheel, qu'on pourrait traduire par la roue, bien
c'est
sûr.
Pour moi, donc, du
mais
coup,
évidemment, ouais. C'est pour vous, Charline, sur la roue de la pop culture. C'était donc PJ Harvey, c'était en 2016. Vous écoutez Pop, 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 l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Le cri de Laura Palmer dans la dernière saison de Twin Peaks, ce cri qui vous évoque la pop culture, Iris Bray. Alors, Iris, dans la séquence qui suit, nous allons peut-être crier, voire hurler. Nous allons essayer tout simplement de parler de pop culture, c'est l'heure de votre pop list. Un livre, un film, une musique, un personnage de série, voici pour le menu du jour. Pour le livre, Iris, vous avez choisi La pensée straight de Monique Wittig. Alors, Charline, si je ne m'abuse, il ne s'agit pas du tout d'un titre de Gérard de Villiers pour sa série de SAS, mais d'un essai de la représentante d'un féminisme matérialiste et marxiste. M'abuse-je ?
Nope, absolument pas. Effectivement, elle y expose l'hétérosexualité comme système politique qui désigne donc un fonctionnement social basé sur la répartition des êtres humains en catégories de sexe, femmes et hommes, et ce selon des critères biologiques et l'utilisation des organes génitaux comme marqueur de l'identité sexuelle.
Iris, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Oui. Franchement, c'est un problème que les lesbiennes n'ont pas. Simple changement de perspective. Et il serait impropre de dire que les lesbiennes vivent, s'associent, font l'amour avec des femmes, car « femme » n'a de sens que dans les systèmes de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels. Les lesbiennes ne sont pas des femmes.
Pouvez-vous nous faire une réponse straight pour nous expliquer votre choix, s'il vous plaît ?
Malheureusement, Iris Bray. Non, mais je pense que ce texte de Monique Wittig, c'est vraiment extrêmement important pour tout le courant féministe, matérialiste, mais aussi les autres. Et je pense que aujourd'hui, Wittig redevient à la mode, et je trouve ça génial de voir la circulation d'un texte. C'est un texte qui a d'abord paru en anglais. Wittig est partie de France. Elle est allée écrire aux États-Unis. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel engouement, grâce notamment à certaines chercheuses comme Ilana Eloyt. Mais voilà, je trouve que c'est un texte important parce qu'elle nous force à penser l'hétérosexualité comme un système. Et une fois qu'on prend ça en compte, eh ben on peut tout déconstruire. Et ce que Wittig dit quand elle dit en fait que les lesbiennes ne sont pas des femmes, c'est que les lesbiennes, elles ne sont pas des femmes parce qu'elles échappent au regard masculin. Mmh. Donc ça rejoint aussi ce qu'on essaye de faire dans ce livre.
Voilà pour le livre. Pour ce qui est du cinéma, vous portez votre choix sur Chantal Akerman. Alors non pas pour son film le plus célèbre, L'attaque des tomates tueuses, mais pour le plus discret, Jeanne Dielman, avec la divine Delphine Seyrig. C'est un film de 1975. Tiens, alors là, c'est moi qui vous apprends peut-être quelque chose, Charline, qui a influencé Todd Haynes et Gus Van Sant. Mais oui, c'est Chantal Akerman.
Mais oui.
Mais de quoi ça parle-t-il, ce film ?
Alors, titre entier, Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles. C'est le quotidien d'une mère de famille qui se livre occasionnellement à la prostitution.
Bonjour.
Bonjour.
On va dire que c'est un film qui prend son temps.
Après un cri, mais... je me suis dit qu'un silence, oui,
c'était pas mal.
Ouais.
Mais qui vous a influencé, Iris Bray.
Oui, d'ailleurs, je viens d'entendre une archive de l'INA où on entend Chantal Akerman qui dit que c'est peut-être le seul film où une héroïne qui brûle une pomme de terre est un moyen de créer du suspense. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est que Akerman, pour moi, elle sait filmer les gestes qui sont liés au corps féminin. Jeanne Dielman, c'est quelqu'un qui se prostitue, mais c'est aussi toute une autre histoire qui est racontée. Mmh. Et effectivement, elle prend le temps d'éplucher, de faire tous ces gestes que moi, j'avais jamais vus avant au cinéma. Et de les voir au cinéma, pourquoi c'est important ? Bah, c'est que tout d'un coup, ça a de la valeur. Et que tout ce qui est lié au domestique et à la domesticité et au rôle et le travail des femmes dans leur maison, c'est quelque chose que je méprisais, en fait, avant de voir ce film-là. Et de prendre le temps de filmer, de nous interroger, en fait, sur le rapport qu'on a au mépris, au féminin, je pense que c'est extrêmement important.
Mmh. Et aussi sur le temps de cuisson des fameuses pommes de terre.
Oui.
En temps réel. Votre personnage pop, Iris, c'est Miranda de Sex in the City et dans ce carteron de trentenaire new-yorkaise. C'est Miranda, la féministe et avocate, qui est avocate et féministe, hein, c'est ça ?
Mais vos souvenirs sont absolument voilà. Excellents, Antoine. Miranda Hobbs, avocate, intelligente, sûre d'elle, sur toute sa réussite professionnelle. Une ambitieuse qui ne se cache pas, et c'est plutôt une bonne nouvelle, et aussi une femme de conviction.
J'ai une copine qui sortait toujours avec des mecs sexy à mort. Elle faisait ça juste pour le pied. Un matin, elle s'est réveillée, elle avait 41 ans. Elle n'était plus cotée en bourse. Elle en a fait une dépression nerveuse. Elle s'est fait virer de son travail et elle est repartie dans le Wisconsin pour vivre avec sa maman. Croyez-moi, ce n'est pas une histoire qui arrivera à un mec.
Évidemment, on vous propose la version française, ça ne vous a pas échappé.
Oui, surtout que mon père vient du Wisconsin, donc oui. je ne m'identifie pas du tout à ce personnage. Enfin,
alors, pourquoi ce personnage de Miranda
Parce que Alice Pfeiffer a choisi Samantha il n'y a pas si longtemps, donc je me suis dit qu'on allait changer. Et parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi que l'actrice qui joue Miranda, c'est Cynthia Nixon, et qu'elle s'est présentée au poste de gouverneur de New York en 2018. Et ça m'intéresse de voir comment en fait les séries et la fiction interagissent avec le réel et de se dire voilà que il y a des ponts à faire et qu'on peut aussi être féministe et actrice et militante. Je trouve que c'est quelque chose, peut-être voilà, c'est pour la rapprocher finalement de Delphine Seyrig, quoi. Je trouve qu'il y a des ponts à faire entre Ackerman et Sex and the City.
Très bien. Enfin, pour ce qui est de la musique, place au King, enfin à la King, Carole de son prénom, et cette épaule tendue pour le réconfort, You've Got a Friend.
Winter, spring, summer.
Pourquoi cette King au féminin ?
Parce que pour moi, la notion de sororité est quelque chose que j'ai découvert tardivement. Et on en parle aussi dans le livre avec Myrion. Et je pense que de penser que la sororité, c'est aussi un outil politique, c'est quelque chose de très important. C'est pas juste être copine avec d'autres filles, c'est-à-dire créer une force collective pour changer le réel. Et je pense vraiment que ça passe par la sororité. Et pour moi, voilà, c'est une chanson qui est liée à une expérience d'écriture que j'ai faite il n'y a pas longtemps en résidence dans un lieu où il n'y avait que des femmes. Et je trouve que c'est ça, c'est apprendre la sororité, c'est s'intéresser aux autres et se laisser aussi imprégner des travaux des autres femmes et de s'entraider et de créer une force politique et collective.
Eh bien, merci Carole King. Alors, je résume. La pensée straite, Jeanne Dielman, Miranda de Sex and the City, Carole King. Je mets tout ça dans mon petit mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
J'ai une copine qui sortait toujours avec des mecs sexy à mort.
Bonjour.
Bonjour.
Elle s'est réveillée, elle avait 41 ans. Elle n'était plus cotée en bourse.
Franchement, c'est un problème que les lesbiennes n'ont pas. Simple changement de perspective.
Croyez-moi, ce n'est pas une histoire qui arrivera à un mec.
Oui, c'est intéressant, comme mix. C'était très genré, mais c'était intéressant.
Vous vous y retrouvez ?
Est-ce que je m'y retrouve ? Une partie de moi, mais je pense que une identité est tout le temps un cheminement, et c'est ce qui est intéressant avec la pop culture, c'est la manière dont elle nous influence et aussi comment les œuvres peuvent changer nos vies, mais aussi comment nous on change par rapport à certaines œuvres.
Et c'est un mix qu'on doit au doigt de fée de notre réalisateur, enfin sa part féminine.
Fée de fée.
Ghislain, Canal Plus, mon coucou, et des cassés. Canal 2.
Canal Plus maintenant.
Et non, je me sens passer à Canal. Bon, nous parlions de la King à l'instant, et comme je suis royal, je vous propose d'écouter le morceau en intégralité. Eh oui.
Down and troubled, and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon
Got a Friend, Carole King, c'était en 71 sur l'album Tapestry. Aujourd'hui, dans l'album de Pop Pop Pop, grâce à Iris Bray, notre invitée du jour. Merci Iris d'être passée par notre studio. Sous nos yeux, c'est avec Myrion Mal. C'est à retrouver aux éditions La Ville Brûle. Et c'est évidemment très recommandé par Pop Pop Pop. N'est-ce pas, Chardine?
Oui, à mettre dans tous les mains des jeunes gens, filles comme garçons. C'est très important.
Voilà, merci pour ces précisions. Merci d'être venu dans notre studio.
Merci.
Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui. Demain, dans Pop Pop Pop, l'écrivain Olivier Guèze et le scénariste Didier Tronchet seront dans l'émission pour une spéciale foot et pop culture. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.